la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor.
Comme tant de Cubains nés après sa mort, j'ai le même prénom que Che Guevara, Ernesto. Ernesto comme le guerriero héroïque, comme l'Ernesto qui était parti faire la révolution dans des forêts lointaines. À ma naissance, la maisonnée célébra l'événement pendant plusieurs jours. Mes deux grands-mères cuisinaient pendant que les hommes jouaient au domino. Quand mon père arriva avec maman, qui me tenait dans ses bras, tous voulaient me voir. J'étais le premier bébé, le bonheur de la famille. Mais nous étions en pleine guerre froide. La guerre est un étrange animal mutant qui se répand en tâtonnant dans de nouveaux territoires pour y trouver l'oxygène nécessaire à sa survie. L'Afrique avait de l'oxygène. C'est pour cela que s'y est installé froidement, lentement, ce monstre qui allait l'explorer en salissant tout. Jusqu'à arriver à nos portes. Jusqu'à la porte de ma maison.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
À la fin des années 60 et au début des années 70, le fond de l'air était rouge. Partout, sur tous les continents, la jeunesse s'était révoltée pour que la vie change et qu'un monde plus juste émerge. Quittant Cuba, le Che était parti allumer des foyers révolutionnaires sur le continent où les grandes compagnies yankees soutenaient des régimes dictatoriaux. Sur l'île, soumise au blocus américain, l'enthousiasme de la génération qui avait acclamé l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro cohabitait avec la désillusion des plus jeunes, lassés des grands discours et des difficultés de la vie quotidienne. L'engagement dans la guerre civile angolaise ne pouvait qu'accentuer cette incompréhension croissante. Carla Suarez a grandi durant ces années-là, bercée par les slogans patriotiques et les chants révolutionnaires, engagée comme tous les jeunes dans des formations militaires et les travaux agricoles. Ingénieure en informatique, elle publiera son premier roman, Tropique des silences, en 1999, après son départ pour l'Europe. Le quatrième est paru à la rentrée aux éditions Métellier. Le fils du héros, traduit par François Gaudry, raconte la quête d'Ernesto, un quarantenaire torturé, exilé au Portugal, pour comprendre les circonstances de la mort de son père en Angola. Une peinture attachante de la société cubaine, fière et déchirée. Bonsoir Carla Suarez.
Bonsoir.
Vous étiez à Cuba en septembre, alors qu'on vous attendait ici à Paris, parce que le cyclone Irma est passé sur les Antilles. Comment ça s'est passé à Cuba et comment la reconstruction se passe-t-elle?
Voilà, c'était le cyclone passé samedi soir et c'était vraiment très fort. Et c'est bien qu'il n'ait pas passé directement sous l'île, c'était à côté, mais vraiment a tout détruit parce qu'il a traversé tout. Et le lendemain, c'était, moi je suis à La Havane, et La Havane était avec tous les arbres par terre. On a resté 4 jours sans électricité. Alors il avait plus de difficultés pour trouver des choses à manger parce qu'il avait beaucoup de choses fermées. Voilà, il y avait des gens qui n'avaient pas d'eau. Après 4 jours, 1 semaine, je crois que déjà tout le monde avait l'électricité et déjà ça commençait. Et dans mon quartier, par exemple, les gens, le lendemain, le dimanche, tout le monde s'est jeté dans la rue, là, a commencé à faire des choses comme d'habitude, non? Et maintenant, ça va. J'espère que cette époque des ouragans va s'arrêter un peu parce que là, normalement, depuis quelques années, ça commence à être chaque année plus fort. L'ouragan.
Alors, on a beaucoup parlé, justement, en France, à la télévision, des îles françaises, bien sûr, des îles américaines. Et puis, on a cité Cuba, et Cuba est sorti du traitement de l'information. On en avait beaucoup parlé au moment de Barack Obama, le rétablissement des relations diplomatiques. On s'était dit que les choses allaient changer. Et puis là, on n'en entend plus parler. En fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a fait que cette île est retombée dans les systèmes de sanctions économiques, de blocus? Où on en est?
Oui, il a fait un pas derrière quand même. Mais c'était pas, moi, j'étais très content avec les relations et tout, parce que ça a ouvert quelque chose. Mais avec Donald Trump, les relations, ça continue. C'est pas que c'est fini. Mais là, il commence commence à dire des choses qu'il veut éliminer, qu'il avait fait déjà Obama. Et maintenant, c'est un peu un moment d'impasse, on peut dire comme ça. Mais je crois qu'il y a des choses quand même et qu'on est déjà passé dans un point que c'est difficile de retourner. Et ça, j'espère, parce que vraiment, on a tout, ma vie et la vie de beaucoup de gens, c'était avec les difficiles relations entre Cuba et les États-Unis. Je crois que c'est important pour changer des choses, que ça tenir ces relations et commencer vraiment à construire notre relation.
Oui, et depuis Raúl Castro en 2008, c'est vrai que économiquement, parce qu'on sait à quel point c'est important pour une société, les choses avaient commencé à changer, mais on a l'impression que, en fait, Cuba est soumis au régime de la douche froide et de la douche chaude, c'est-à-dire il y a des jours où on dit ça va aller mieux, les commerces vont pouvoir ouvrir, la vie va changer, s'améliorer, et puis tout d'un coup, il y a à nouveau des pas en arrière.
Oui, mais moi, je vais souvent à Cuba parce que moi, j'ai toute la famille est là, et j'ai l'impression qu'il y a deux Cuba quand même, parce que ça continue la double monnaie. Il a encore le peso cubain et le peso cubain équivalent à dollar. Donc il y a deux économies. Ça a fracturé complètement la société depuis les années 90. Les années 90 ont détruit beaucoup de choses de la société, des bonnes choses qu'il avait, et l'éducation et la santé et tout. Et les valeurs sont changées beaucoup dans ces années-là, des difficultés économiques.
Oui, parce que soudain, les commerçants devenaient des professions beaucoup plus intéressantes que les médecins, qui eux ne pouvaient pas avoir de monnaie.
Maintenant, c'est comme ça, pour beaucoup de gens, ça améliorait beaucoup. Parce que surtout les gens qui sont, le travail dans la restauration, avec le tourisme. Et ça, il y a des quartiers qui sont vraiment la vieille Havana, c'est devenu très joli, un morceau de la vieille Havana. Et on va là et on voit la construction que ça continue à grandir, des hôtels, des choses comme ça, mais c'est que les choses qui touchent le tourisme. Les restes, non. Et dans d'autres quartiers qu'il y a des années, quand j'habitais là, c'était des quartiers normaux. Maintenant, tu vois que c'est vraiment très détruit, c'est un peu abandonné. Et il y a cette différence énorme entre les salaires des gens. Il y a beaucoup de professionnels qui gagnent de la monnaie nationale. Et alors, les pouvoirs de faire des choses, c'est complètement différent. Mais pour moi, c'est curieux parce que chaque fois que je vais aller dans les endroits nouveaux pour voir, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il y a beaucoup de restaurants, des bars et tout. Et c'est tout plein de gens, des discothèques, c'est plein de gens. Mais d'un autre côté, il y a des gens, des amis à moi que je connais, avec lesquels je parle, et la vie quotidienne quand même continue à être très, très difficile, parce qu'il manque beaucoup de produits. Rien n'est sûr. Aujourd'hui, tu peux trouver une chose, si demain, et non. Parfois, c'est pas un discours de tu as l'argent ou pas. Non, est-ce qu'il n'y a pas? C'est une vie fatigante. Moi, je vais là, moi, et c'est comme, j'ai la sensation d'être 6 mois. Donc, d'un côté, il y a des choses qui changent, mais je ne sais pas si ça vraiment va toucher tout. Et surtout, si on va récupérer certaines choses que c'était bien. La médecine aussi, ça a beaucoup...
Mais beaucoup de médecins ont émigré parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie. Ouais. Mais dans ce dernier livre, Carla Suarez, Le fils du héros, qui est paru chez Métellier, comme vos précédents livres, il y a la description de ces années qui sont les années de votre enfance. Parce qu'au fond, Ernesto, ce garçon, c'est votre double. Oui. On sait, d'ailleurs, vous lui avez donné, c'est assez frappant, vos goûts littéraires, puisque chaque chapitre est celui d'un livre qui a beaucoup compté pour vous dans votre construction. Au fond, quand vous étiez petite fille, puis adolescente, dans ce Cuba de la fin des années 60, puis des années 70, et pour votre adolescence des années 80, c'était un Cuba, vous le disiez, joyeux et encore plein d'espérance. Le mur de Berlin n'était pas tombé, l'URSS continuait à soutenir le régime castriste. Même si la vie était difficile, il y avait encore beaucoup d'enthousiasme.
Oui, mais on est les fils de la génération qui était très très jeune au moment de la révolution, donc il y avait tout ça, il y avait les rêves, parce que les gens étaient en train de construire encore quelque chose, on construit pas un pays en 2 jours. Donc il y avait c'est ça, et nous on a grandi dans un pays, je crois que, je l'ai dit dans les romans, c'était les années 80, c'était les meilleures années de la période de la révolution, après la révolution, parce qu'il y avait quand même, il manquait des choses, mais il y avait des produits essentiels parce qu'il y avait l'Union soviétique et le reste. Donc, on n'avait pas cette difficulté qu'on a. Il y avait beaucoup de produits qu'on n'avait pas. Mais les autres, il y avait. C'était pas une difficulté. Ah, qu'est-ce que je vais manger demain? Donc, il y avait beaucoup d'une vie culturelle, beaucoup de cinéma, de théâtre, des choses à faire. Et c'est là que j'ai grandi. On appartenait à un monde. Qu'il y avait deux mondes, le monde du socialisme, le monde du capitalisme, on disait socialisme à Cuba. Et voilà, on a grandi en train de rêver. Voilà, de faire beaucoup de projets pour après, quand j'irai à l'université, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et donc, c'était des années qu'il y avait, même il y avait beaucoup de gens, des dissidents et tout, ça c'est toujours. Mais aussi, c'était des années qui étaient très divisées, parce que les Cubains qui partaient, à un moment donné, avant les années 90, les Cubains qui partaient pouvaient pas rentrer. Donc, on était vraiment dans un endroit très fermé. Et on n'avait pas beaucoup de relations, de savoir, parce que maintenant, il y a les gens qui partent, les gens qui viennent, il y a beaucoup de tourisme, il y a des gens qui disent, voilà, oh je connais ça, je connais ça.
Donc, on peut comparer, alors
oui,
qu'à l'époque.
On était complètement dans une île, et on savait ça que la télévision racontait. Et ça fait aussi que tu es dans une boule. Là,
et puis de toute façon, Carla Suarez, pour les enfants, les discours héroïques, il y a de l'enthousiasme.
Oui.
On se dit, on construit quelque chose, on est à l'avant-garde, on construit une société plus juste. Et ça marche pour les enfants. Vous racontez dans votre livre ce que vous avez dû aussi expérimenter à Cuba, c'est-à-dire le fait que les enfants, en fonction de leur âge, ils vont faire des travaux des champs, ils vont faire de la préparation militaire, et que donc ça sert à intégrer aussi la jeunesse dans le régime lui-même, dans le régime politique.
Si, mais nous, on devait faire, c'était l'éducation et les travaux, non? Donc, on faisait toujours, avant le lycée, les gens allaient à la campagne à travailler. Moi, je suis allée à travailler à la campagne pour les tabacs. Et après, on avait la préparation militaire aussi. On devait faire aussi la culture, les sports, donc beaucoup de choses. Et à l'université, je me rappelle que c'est ça que j'ai raconté aussi dans les romans, qu'on faisait la préparation militaire. C'était comme une matière en plus, des matières d'ingénierie. Et on devait aller aussi à travailler, ça s'appelait travail volontaire, mais il fallait le faire, c'est volontaire. Et voilà, donc on travaillait à la construction un peu, on faisait la préparation militaire et on étudiait là. Et c'était comme l'éducation intégrale, ça s'appelait, voilà. Et maintenant, ça n'existe pas. Les gens ne vont pas à la campagne et la préparation militaire, c'est théorique. Mais c'est pas comme la préparation qu'on a fait. Parce que c'était les années 80 et on vivait aussi avec la menace de l'agression de l'ennemi. Donc tout, mais les gens à l'école, mais les adultes dans le travail, il y avait une chose qui s'appelle la milice des troupes territoriales, que c'était tout le monde devait être préparé militairement pour quelque chose qui pouvait se passer.
Oui, mais d'ailleurs dans votre livre, Carla Suarez, vous parlez bien de ce côté volontariat, c'est-à-dire que il faut mettre des guillemets parce qu'on demande aux enfants d'être volontaires pour aller faire un certain nombre de choses. On demande aux adultes d'être volontaires, y compris pour aller faire la guerre quand ils pensent simplement faire de l'engagement humanitaire. On va écouter une première lecture d'une page de votre livre.
L'année où Tamayo s'envola vers le cosmos, Berto travaillait à La Havane dans une entreprise de transport. Un jour, il fut convoqué à une réunion où on lui demanda s'il était disposé à faire partie d'une mission internationaliste en Afrique pour mettre ses compétences au service d'un pays frère. Il répondit: vous pouvez compter sur Berto Tejera Rodriguez. On ira où vous voudrez. Peu après, il partit en Angola comme chauffeur. Ce n'était pas un militaire, mais il s'agissait d'un pays en guerre. Son passeport lui fut retiré dès son arrivée. On lui donna des vêtements de campagne et une plaque avec son numéro d'identification qu'il devait porter en permanence autour du cou. À cette époque, ne partaient que des volontaires. Bien qu'avec les années, le mot « volontaire » ait pris un sens tout particulier dans mon pays. On vous demandait si vous étiez volontaire pour accomplir une mission, et si vous ne l'étiez pas, gare aux conséquences. On vous regardait de travers, on vous traitait de lâche, on se moquait de votre manque de virilité, vous pouviez avoir des problèmes au travail pour avoir refusé de partir au front, ce genre de représailles. Beaucoup partaient parce que c'était comme ça, affirma-t-il. Parce qu'au-delà de tout ce verbiage de pays frères et de tiers-mondisme, l'Afrique est dans notre sang. Nous sommes Africains, mon garçon. Berto est blanc, mais comme on dit, à Cuba, qu'on soit à Congo ou Karabali, on est tous noirs. Une grande partie des esclaves qui ont été emmenés ici au temps de la colonie venaient d'une région d'Afrique qui est aujourd'hui l'Angola. Je dois donc avoir un ancêtre africain, affirma Berto. Et il avait beau savoir, comme tout le monde, que ce pays était en guerre, il ne tenait pas à y participer. Ce qui le motivait était d'aider.
« Carla Suarez, cette guerre angolaise dans laquelle Cuba va s'engager entre 1975 et 2002 va finir par envoyer 350 000 soldats. 2000 seront tués là-bas au combat. C'est une fracture terrible. C'est un moment, et vous le décrivez bien dans votre livre, où tout d'un coup, il y a eu une cassure, une incompréhension. On allait aider un pays frère, mais on sentait bien qu'il y avait, derrière les discours d'aide officielle, quelque chose d'autre qui provoquait des désastres dans la société cubaine.
Mais ça, c'était surtout, je crois, c'est une guerre qui a duré beaucoup d'années. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens pour faire, en fait, cet personnage de Berto. Il a quelques modèles réels. Et j'ai parlé avec des gens, mais c'était important pour moi parler avec des gens qui avaient participé dans différentes périodes de la guerre. Parce que les gens qui sont allés au début, c'était une autre chose, c'était d'autres années, bien sûr, c'était la fin des années 90, c'était l'indépendance d'un pays, c'était une autre chose. Après, ça a commencé à devenir vraiment tout le monde, parce que les premiers qui sont allés là, c'était militaires de carrière, c'était pas volontaires, les gens de la réserve militaire. Ça a commencé à se grandir, et finissait pour les gens même du service militaire, que c'était des jeunes, des gens de 18 ans, j'ai un ami de 18 ans qui était là. Mais lui, par exemple, il m'a raconté, voilà, je suis partie, j'ai dit oui, parce que c'était moins de passer les services militaires en Angola qu'à Cuba. Donc, je me suis dit, oh, je vais là. Mais quand il est arrivé là, il s'est rendu compte que vraiment, là, c'était une guerre. Parce que la guerre, c'est un mot jusqu'au moment que tu es là, vraiment. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans les romans, de comment on a vécu une guerre à Cuba, mais avec des kilomètres de distance. On était dans un état de guerre, mais on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est ça qu'est quand on l'a. Vraiment, et quand on voit qu'on a vraiment la possibilité de mourir. Voilà.
Et la possibilité de critiquer ou de poser même des questions.
De savoir des choses. Pourquoi je suis là, vraiment. Ouais. J'ai passé 4 ans à travailler dans ces romans-là, et j'ai lu beaucoup de choses, j'ai parlé avec beaucoup de choses. La grande question que je me posais tout le temps, c'était pourquoi on a resté telle quantité des années? Parce qu'au début, c'était pour aider un moment précis, l'indépendance.
Contre le Portugal, et après, c'était une guerre civile.
Voilà. La guerre d'Angola, en plus, c'est une guerre très compliquée. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, hein, bien sûr, encore. Il y avait l'indépendance, mais il y avait 3 groupes d'indépendantistes qui étaient contre eux. Donc, s'est passée la guerre civile au territoire de l'Angola, mais aussi à côté de ça, il y avait la guerre froide, parce que tous les pays ont décidé d'aider un de ces groupes indépendantistes pour lutter contre l'autre. Donc, l'Union soviétique aidait un groupe et les États-Unis aidaient un autre. Les Chinois aidaient un autre parce qu'ils étaient contre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, il y avait beaucoup de pays, le Congo, Cuba, qui étaient en train de faire une autre guerre, plus subtile, mais c'était à un autre niveau. Et les Cubains, c'est vrai qu'ils sont partis. On commençait, au début, c'était pour 200, sûrement, l'aide, et après l'indépendance, ils devaient partir. Ils commençaient à partir, après, ils sont arrêtés, ils se sont continués là. C'était vraiment une guerre que c'est comme le jeu, il y a un personnage de Berto qui jouait les échecs, et voilà, ça c'était vraiment le territoire d'un grand jeu qui s'est fait là. Là, tu commences à te poser vraiment beaucoup de questions.
Est-ce que ça reste aujourd'hui encore dans la société cubaine, Carla Suarez, une vraie douleur, une vraie incompréhension? Est-ce qu'il reste encore pour les Cubains quelque chose à savoir sur cette guerre?
Mais beaucoup de choses, parce que ça, je crois que c'est une guerre. Il manque encore des beaucoup parlé, parce que c'est un guerre qui a fini au début des années 90, et après on a tombé dans la période spéciale, qui ici on connaît, c'est les années 90. La guerre a disparu presque dans ces années, on ne parlait pas. Les gens, oui, parce que les gens, ils sont là, ils sont les gens qui ont perdu son fils, son papa, il y a toutes les blessures de la guerre. Les gens qui sont allés là ont vu des choses, et après, ils ne peuvent pas oublier ça qu'ils ont vu, donc ça existe. Mais au niveau des gouvernements, on ne parlait pas de ça pendant beaucoup d'années. Après, ça a commencé déjà sorti, mais il faut parler des situations tristes et les blessures et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu abandonnés à ça, à son expérience, et je crois parler, on ne peut pas résoudre la situation, mais au moins ça fait bien. C'est un sujet très très délicat pour les Cubains. Chaque fois qu'on parle, il y a 3 Cubains en train de parler de la guerre d'Angola, il y a une discussion parce que c'est vraiment différents points de vue. Moi, avec ces romans, par exemple, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit, ah, j'ai bien aimé, d'autres gens qui me disent ben non, parce que là, il n'y a pas les côtés historiques, ou l'autre qui m'a dit ben non, il n'y a pas ça. Il y a toujours quelque chose qui va manquer, bien sûr, c'est un roman. Mais c'est surtout le sujet que c'est délicat pour nous, et on est touchés tous pour des choses différentes. Et je crois en plus que c'est, en plus, très important de continuer à parler parce que la nouvelle génération ne connaît pas beaucoup de choses sur cette guerre. Il ne faut pas oublier les choses parce que c'est vraiment très très récent.
Carla Suarez, votre livre s'appelle Le fils du héros parce que le père d'Ernesto a disparu en Angola et quand il est jeune garçon et adolescent, il est obligé de se comporter d'une certaine manière parce qu'il est le fils du héros, le nouveau chef de famille. Donc c'est un enfant qui grandit au fond en perdant l'insouciance. Et en fait, l'exil va devenir pour votre héros une façon de régler ses comptes avec lui-même, avec son père, avec sa famille, avec Cuba, des comptes politiques, des comptes personnels. Ernesto, quand il traverse l'Europe, d'abord à Berlin, puis à Lisbonne, au fond, c'est un homme en dépression qui cherche à comprendre qui était son père, pourquoi il a disparu, comment ça s'est passé. Et il va partir sur les traces de tous les anciens soldats cubains qu'il peut trouver, qu'il peut faire parler sur un blog. Cette douleur-là, vous l'avez vous-même qui vivez en Europe, maintenant à Lisbonne, avant à Berlin, à Paris. Vous avez rencontré comme ça beaucoup de Cubains exilés qui essayent de reconstruire la vérité historique.
Oui, mais il y a beaucoup de Cubains, bien sûr, qui essayent de reconstruire, parce que non, pour moi, par exemple, parce que c'est la Cubain que je connais mieux. Moi, je suis partie il y a 20 ans, et pour moi, par exemple, quand j'étais à Cuba, j'écrivais des nouvelles et tout, mais j'étais pas tellement intéressée à écrire des sujets qui avaient une relation directe avec
sur Cuba. L'histoire cubaine.
Oui, voilà.
Alors qu'aujourd'hui, tous vos livres ne traitent que de ça.
Et alors, je suis partie, et en fait, quelqu'un m'a demandé une fois, mais tu crois que tu pouvais écrire, si tu étais à Cuba, tu aurais écrit ces livres-là? Je crois pas, parce que pour moi, la littérature aussi s'est reconstruite, en fait. Dans mes 4 romans, j'essaye de reconstruire tous les pays où j'ai grandi. Je vivais là. Chaque roman, j'essaye de faire les points sur un sujet qui m'intéresse. Maintenant, c'est la guerre d'Angola. Et avant, c'était la période spéciale, avant l'immigration et la famille. Donc là, j'ai passé 20 ans à essayer de reconstruire ça. Et ça, c'est une chose qui te fait l'immigration en général. Parce que d'abord, on reste un peu comme dans la mer, non? On n'est plus dans notre endroit, mais on n'est pas tellement dans l'endroit où on vit, non? Il manque quelque chose toujours, des petits points de référence. Parfois, tu arrives dans un endroit où tu n'as pas des histoires, tu n'existais pas, tu n'étais pas avant. Et ça, c'est une sensation de l'immigration, normalement. Et pour Ernesto, pour tourner au roman, pour Ernesto, c'est encore pire parce que il a perdu son père dans cette guerre. Lui, il connaît pas vraiment les particuliers de cette guerre. Il comprend à un moment donné que pour continuer sa vie comme individu, il doit comprendre des choses et savoir pourquoi son père est parti, pourquoi son père est disparu, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et ça devient l'obsession. Et plus des gens connaissent, alors pour lui, c'est comme il est obsédé pour ça. Tous les gens qu'il rencontre, il fait amitié avec tous les gens des Cubains qui ont une relation à l'Angola, qu'on était là, qu'on s'intéresse au sujet. Pour moi, comme écrivain, c'était un personnage intéressant parce que c'est un personnage qui ne pense pas au futur. Lui, il n'a pas de futur. Il vit dans le passé, mais dans un passé qu'il doit construire. Donc vraiment, c'est l'homme qui est placé là, il ne marche pas en avance. Mais pour continuer à avancer, il doit comprendre le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent au être humain, non? On doit faire la digestion de certaines choses pour continuer, sinon...
Et puis, de toute façon, Carla Suarez, quand on vous pose la question « Pourquoi est-ce que tu ne publiais pas ce genre de livre à Cuba ?» Mais je veux dire, on sait bien que la moindre critique de la politique cubaine était impossible. Et c'est ça qui est bien avec les Cubains qu'on rencontre, c'est qu'au fond... Ils savent faire la part des choses. Certaines choses étaient formidables, l'éducation, la médecine, cette espèce de vie collective. Et puis, je veux dire, les Cubains avaient viré de chez eux la corruption, les gangsters, les Américains, les grandes sociétés. Donc, il y a de quoi être fier. Et en même temps, il y a un pouvoir qui, à force de s'incruster dans la durée, supprimait toute possibilité de critiquer la politique. Avant d'en parler avec vous, Carla Suarez, on va écouter une autre lecture de votre livre, Le Fils du
Canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. Cuba, territorio libre en América.
Le 26 juillet, comme tous les ans, Fidel Castro prononça un discours. Et j'en garde un vif souvenir, parce que nous attendions avec anxiété ce qu'il allait annoncer, mais aussi à cause de ce qui s'est passé après. Mes oncles Melquiades et Miguelito étaient venus déjeuner à la maison, et ensuite, nous nous sommes assis devant la télévision. Comme d'habitude, ce fut un discours fleuve. Difficulté du pays, baisse du prix du sucre et hausse d'autres produits sur le marché international, processus de rectification des erreurs, changement qui commençait à se produire dans les pays socialistes, et le courage de notre peuple et de notre parti. Parfois, le discours était interrompu, à la télévision par les applaudissements, à la maison par oncle Miguelito qui n'était pas d'accord et oncle Melquiades qui lui ordonnait de la fermer. Jusqu'au moment où il fut question de l'Angola. Et là, tout le monde se tut. Fidel présenta un résumé des événements avant et pendant la bataille de Cuito-Cuanavale et il évoqua les négociations. Il existait déjà un premier accord établissant les bases de l'accord final. Une fois celui-ci signé, commencerait le retrait global de nos forces en Angola. Notre mission accomplie, conclut Fidel, nous serions heureux d'accueillir nos combattants et bâtisseurs pour continuer la bataille pour le développement du pays. Heureux, putain de ta mère! Et c'est pour cette saloperie que mon frère a dû crever, s'écria oncle Miguelito en donnant un coup de poing sur le canapé. À la télévision crépitaient les applaudissements. Je sentis un élancement à la poitrine. Oncle Melquiades haussa le ton pour dire à son frère de foutre la paix à son autre frère qui était tombé en héros. Mais Miguelito se leva furieux. « Héros, mon cul, oui » s'exclama-t-il. Et il continua à proférer des obscénités.
« Internationalista, quand ayudamos al pueblo de Angola ?»
Carla Suarez, dans votre livre, bien sûr, il y a ce moment où les pays communistes étant en train de faire leur propre révolution intérieure, Cuba commence à vaciller, c'est la fin, espère-t-on, de la guerre en Angola, il faudra encore quelques années, il va y avoir le procès Ochoa et des frères LaGuardia, et il va y avoir surtout une période économique très difficile, puisque sans l'aide soviétique, Cuba va connaître des années très dures. Et ça, vous, vous l'avez vécu là-bas, ça a été quelque chose comme une sorte de désillusion.
Oui, c'était surtout, je me rappelle, une période où on ne comprenait pas les choses qui s'est passé parce que se sont passés très rapides. Dans la fin des années 80, et moi j'ai commencé 87 l'université avec beaucoup de rêves, des plannings, des choses que je voulais faire quand je finissais l'université. Mais 88 a tout commencé à changer et après à l'université il y avait l'ambiance, tout le monde a commencé à parler, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait des choses qu'on regardait à la télévision, et nouvelles venaient toujours de la télévision, la radio. Mais on comprenait pas. Il y a d'abord des gens, par exemple, j'avais des copains qui, son père était ministre, des gens qui commençaient à parler, écoute, que j'ai entendu parler mon père, que voilà. Il y avait des choses qu'on croyait pas. Tu dis que l'Union soviétique, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était notre vie, c'était notre monde. Notre monde a commencé à trembler et alors a commencé vraiment, chaque jour, c'était un pays différent, à tomber la Pologne, à tomber, et alors tu comprenais pas. 89, c'était l'année horrible parce que c'était l'année
des procès.
Des procès au Ochoa et de la Guardia.
Des plus fidèles compagnons, quand
voilà,
même.
Voilà, et c'était comme une rupture que là, tu dis, ces moments, et sort aussi à la devant la télévision, dans les romans, parce que c'était un moment aussi de rupture, des gens disent, bon, si maintenant on est arrivé à ça, on comprend rien. Pour beaucoup de gens, ça c'était vraiment un moment de rupture. Et quand je finis l'université, 92, c'était un autre pays. Mon argent que j'ai gagné comme ingénieur là, c'était rien. Ça, c'était suffisant pour acheter un paquet de cigarettes, presque. Donc, on n'avait pas l'électricité beaucoup. Il n'y avait pas de choses à manger. Et le gouvernement a commencé à parler des choses très mauvaises de l'Union soviétique, que c'était pas bien ça, que c'était pas bien l'autre. Alors, on s'est dit, mais, et alors, on a vécu dans un rêve. C'est quoi ça? Mais il fallait apprendre rapidement parce qu'il fallait manger, parce que c'était un moment très très difficile, vraiment économiquement.
Alors vous êtes partie en 1999, Carla Suarez, et en 2012, vous avez publié dans la revue Feuilleton un très long papier que vous avez fait quand vous êtes revenue à Cuba, où vous avez pu constater les difficultés économiques, c'est-à-dire quand on a fait de longues études, qu'on est devenu ingénieur, qu'on est devenu médecin, qu'on est devenu professeur d'université, on ne peut même pas nourrir sa famille. Et en revanche, quand on a la possibilité d'avoir un petit commerce, de vendre quelques trucs, à ce moment-là, on peut commencer à s'enrichir.
Oui, parce que ça, cet article, c'est intéressant. J'ai interviewé 100 femmes. Et il y avait un professeur universitaire, un médecin qui a fait beaucoup de doctorats et tout, un artisan, et quelqu'un qui travaillait à la femme de ménage, comme ça.
Et en fait, c'était la femme voilà. de ménage qui
alors,
s'en sortait le mieux.
Qui sortait mieux. Et là, les pires, c'était les professeurs universitaires et les médecins. Parce qu'ils gagnent, ce sont des boulots qui sont du gouvernement, donc c'est pas privé. Donc ils gagnent de l'argent monnaie nationale. Et c'est vraiment, c'est l'équivalent, c'est presque. Maintenant, il y a beaucoup de produits qu'on ne trouve que dans les magasins, dans l'autre monnaie. Tout le monde peut l'acheter, mais il faut avoir la monnaie, bien sûr. Et le problème, c'est que ça a commencé en 93, et c'était la fracture complètement du pays, parce qu'ils sont nés deux économies. C'est le moment où beaucoup de professionnels ont dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ingénieur? J'ai gagné rien, j'ai gagné ma vie pour mes enfants, donc je vais laisser l'ingénierie et je vais commencer à faire les taxis, ou je vais travailler dans un bar, ou comme ça dans le tourisme. Et vraiment, toutes les valeurs social. J'ai grandi dans un pays que la culture et l'éducation, c'était très fort, c'était une valeur très forte. Mais dans les années 90, la valeur, c'était l'argent. Que ça? Parce qu'il faut avoir de l'argent pour manger, voilà. Beaucoup de professionnels et de gens sont partis, en plus. Et les autres, il y avait beaucoup de professeurs et tout, qui sont allés en mission dans Venezuela, dans d'autres pays de l'Amérique latine. Et les enfants de l'époque sont grandis, beaucoup des enfants sont en train de grandir, en train d'écouter sa mère. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que... Naturellement, des valeurs sont complètement différentes. Pour nous, c'était les rêves. Je vais faire astronaute, je vais faire ingénieur, je vais faire l'écrivain, et en plus, ça et ça et ça. Et pour celles qui sont grandies dans les années 90, c'était complètement différent. On avait aussi l'illusion de la égalité. Mmh. On était un peu égal, tout le monde, mais après, non.
Du coup, l'exil, Carla Suarez, surtout pour un écrivain, ça reste la seule possibilité, parce qu'on peut publier librement.
Moi, j'ai publié des romans en Cuba. J'ai publié Tropique des silences et La Havana Necero. Ils sont sortis à Cuba. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très important, parce que j'essaye toujours de publier là. Je suis partie, et mon premier livre de nouvelles est sorti, j'étais partie, mais je l'avais laissé quand j'étais là. Et pour moi, c'est très important, ça, parce que c'est mon premier public sont les Cubains. Je suis content que ces livres sont passés, voilà, se sont publiés et qu'il y a les gens qui sont en train de les lire, voilà. Je vais essayer de publier ça, on va voir, mais
celui-ci voilà. Risque de coincer peut-être un petit peu plus.
Mais moi, je sais jusqu'à la fin, voilà.
Merci infiniment, Carla Suarez, d'être venue nous voir aujourd'hui. Donc, je rappelle que Le Fils du Héros, qui est paru chez Métellier, dans une traduction de François Gaudry, est un livre hautement recommandable. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir. Merci beaucoup. C'est fini pour l'Humeur Vagabonde de ce samedi, mais si vous le voulez bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir les complices Jérôme Prieur et Gérard Mandia, qui s'intéressent au suaire et qui nous le racontent sous forme de BD, dont le premier tome vient de paraître chez Futuropolis. Et bien sûr, France Inter, ça continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.